le CKB Show est le podcast référence sur Chrome OS. Dans ce rendez-vous mensuel, nous abordons tous les sujets liés de près ou de loin à l'univers Google et partageons avec bonne humeur nos découvertes, nos échanges et surtout nos coups de gueule. Salut à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Et le CKB Show va aujourd'hui vous parler de beaucoup de choses, des choses qui vont vous faire rêver puisque on va aborder ensemble une panoplie infinie de nouveautés qui vont apparaître sur Chrome OS et évidemment sur nos Chromebooks. Mais on va aller même plus loin, on va aller voir dans l'avenir de ce qui va arriver sur Chrome OS. Et puis on parlera un petit peu avec Thomas, comme d'habitude, des assistants, les assistants vocaux qui envahissent nos maisons, nos chaumières avec Google ou pas, des concurrents peut-être, ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Évidemment, après on ira faire un petit tour sur une du produit, du matériel, parce que Thomas a la chance de pouvoir accéder à des produits que nous n'aurons jamais en France. Il va nous parler du Pixelbook, de ce qu'il a aimé, ce qu'il n'aime pas et ce qu'il va en faire. Alors, je crois que Thomas est enfin arrivé avec nous. Thomas, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vas bien?
Bonjour Nico, je suis là, je t'entends et je vais bien.
Alors, on va enchaîner directement sur les news parce qu'on en a quand même beaucoup. Et si on veut essayer de tenir dans les 1 heure comme d'habitude, il faut qu'on y aille le matin.
Comme d'habitude, c'est marrant, il semblait que d'habitude justement on n'y arrivait pas.
On a des heures à rallonge, nous, tu vois, c'est notre heure, elle fait 1h10, tu vois.
Ouais, en gros, c'est ça, 1h10.
Des heures extensibles, ouais. Des heures élastiques. C'est des élastiques qu'on a, nous.
Voilà. On attaque avec une news sur les tablettes. Alors, donc là, j'avoue, je me suis un petit peu enflammé. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis il y a quelques semaines qui disaient, ça y est, les tablettes Google, c'est terminé. Google ne fera plus de tablettes. Vive les Chromebooks, les tablettes sont mortes.
Il s'avère... Alors, si j'avais un bouton pour faire alarme, fake news.
Très bon bruitage à la bouche. Donc ouais, en effet, je sais pas si c'était une fake news, mais je pense qu'en fait c'est plus en gros une erreur a priori. Ouais, c'est ça, un petit raté côté Google, et puis du coup les journalistes qui se sont un petit peu enflammés, et les journalistes et nous y compris d'ailleurs, enfin on n'est pas des journalistes mais on s'est laissé avoir aussi. Donc tout a commencé en fait quand le site de Google a retiré la mention tablette de leur section en haut du site. Et en fait c'est le site de Google, mais c'est, je sais plus quel site c'est en particulier.
Le store.com,
ouais, c'est
non,
ça.
store.google.com, je crois.
Ouais, c'est ça, c'est le store où ils vendent le matériel. Et en fait, ce qui semblerait, c'est juste que c'est un bug. Et donc, du coup, pour certains matériels, enfin, certains laptops, en fait, en gros, la mention tablette n'apparaissait plus, mais la mention tablette était toujours là. Donc, du coup, ils ont réparé le bug, et en fait, on s'est rendu compte que, Google continuait à, en tout cas, au moins parler un petit peu des tablettes. Même si a priori le Pixel C n'est plus mis à jour avec les nouvelles releases, malgré tout il continue quand même à vendre des tablettes, même si le focus est quand même mis de plus en plus sur les Chromebooks.
Ouais, de toute façon ça vient dans une c'est un mouvement qu'on voit, on voit les tablettes pas disparaître, mais laisser la place, le premier plan médiatique aux Chromebooks, aux ordinateurs de ce type-là. Hein. Et souviens-toi, j'avais fait un article sur My Chromebook il y a un an peut-être maintenant, et l'article, attends, je t'ai donné le titre, « Et si l'avenir de la tablette tactile était le Chromebook ?» Donc, j'étais un peu Nostradamus à ce moment-là, hein, j'ai prédit l'avenir.
Nico prédit l'avenir.
En fait, maintenant, vous dites plus OK Google, vous dites OK Nico, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Et je peux vous le dire, hein. Enfin, pas surtout par contre, mais je peux vous dire que ça va être grave la galère. Non, disons, on aura des robots qui nous domineront. Il y a un truc qui va s'appeler Skynet. Ça appartiendra à Google, hein, évidemment. Et bref, ça va être compliqué, mais ça sera un autre sujet plus tard peut-être, parce que si
pour
on
la prochaine fois, on fera un dossier, on fera un dossier.
On revient
sur les tablettes. On va jamais faire ça en 1h10, ça va durer encore 1h30 cette histoire. Excuse-moi, vas-y, continue.
Donc ouais, donc j'avais déjà, en fait, je m'étais déjà posé la question de quel est l'avenir des tablettes finalement. Est-ce que c'est un marché porteur? Est-ce qu'on a encore envie de tablettes tactiles? Et puis j'avais déroulé quelques points qui moi m'achoppaient. Par exemple, écrire un mail sur une tablette tactile, ça me paraît. Enfin, un mail, pas de deux phrases, hein, pas de deux mots, mais un mail conséquent, professionnel sur une tablette tactile, ça me semblait compliqué. Je sais pas si tu me rejoins sur ce point-là.
Non, ouais, je confirme, je confirme.
Pareil, écrire un texte, un vrai texte, c'est compliqué. Par contre, évidemment, jouer une application tactile, évidemment, une tablette, c'est génial. Mais regarder un film, c'est même pas bien, je trouve, sur tablette, parce que faut la tenir. Et c'est pas pratique dans le lit, ben elle regarde le plafond pendant que toi t'essayes de ta nuque cassée pour regarder parce qu'elle est posée sur tes genoux ou je sais pas quoi. Et un écran d'ordinateur est quand même beaucoup mieux, je trouve, grâce au clavier qui maintient l'écran, on a quelque chose de plus intéressant.
Ouais, et je pense que tu l'as dit aussi, hein, finalement, ce qui fait la différence, c'est le clavier, quoi. Quand on a envie quand t'as besoin d'écrire un email, et ben t'as quand même encore besoin d'un clavier, et donc du coup, bah une tablette, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, quoi.
Ouais. Et le mix entre les deux, du coup, est le bon compromis. On a, bon, on voit Acer avec la Acer Tab 10 qui a uniquement une tablette tactile sous Chrome OS. Tu vois, on disparaît pas les tablettes tactiles puisque Acer mise dessus et Google fait tout pour que le tactile soit accessible et soit utilisable sur leur Chromebook et sur Chrome OS. Et on a dans la foulée HP qui nous sort le HP Chromebook X2. J'ai un doute sur le nom, oui, si c'est ça, le X2, qui mixe les deux. Donc, c'est un Chromebook détachable. Donc, on enlève l'écran du clavier, mais on le reclipse dessus. Un peu à la façon, c'était quoi je crois que c'était déjà Acer qui avait fait les tabs quelque chose à une période où on pouvait déboîter via un système d'aimant. L'écran du clavier, donc, mais ça devient un ordinateur, c'est un tout en un assez intéressant. Ouais. Donc les tablettes disparaissent pas, mais elles se transforment et elles mutent en Chromebook. Voilà. En tout cas pour moi, ça va être ça dans un avenir assez proche.
Non, je pense que c'est une bonne analyse. Merci à Nico Nostradamus. Donc sans transition, on passe aux apps Android. Donc bon, les apps Android sont sur les Chromebooks depuis maintenant plusieurs années, hein. Vous êtes bien au courant depuis le temps qu'on vous en parle. Mais là, il y a un petit truc qui vient d'arriver qui fait qu'en fait, on pourra accéder aux fichiers des apps Android directement dans l'explorateur de fichiers Chrome OS. C'est ça, Nico ?
Et je dirais l'explorateur de fichiers de Chrome OS va être un fil conducteur dans toutes les news, quasiment toutes les news qu'on va vous dire, parce que il subit encore une mutation. J'aime bien le terme mutation aujourd'hui. Tiens, il subit les mutations de Chrome OS et enfin il subit pas. Grâce à ça, il devient meilleur.
Profite.
Il profite. Merci. Je cherchais un terme plus sympa. Du coup, enfin, dans l'application file de Chrome OS, on voit les fichiers d'Android. Donc, en gros, je fais un dessin parce que les dessins, c'est toujours plus facile qu'un long discours. Bon, vous le voyez pas, mais je le fais sur mon je vais vous expliquer mon dessin. Tu vois, c'est super sympa. Tu fais de la photo. Bon, ça t'arrive. Bon, t'as un smartphone comme tout le monde. Tu fais de la photo. Tu prends ta photo, tu la mets sur ton ordinateur. Et tu aimerais la modifier parce que, bon, t'es comme moi, t'es juste nul en photo. Puis, ben, t'as pris une photo, elle est toute foncée. Tu voudrais la modifier. Donc, tu vas utiliser un truc genre Snapseed pour Google. Mais il y a plein d'applications qui, Lightroom ou je sais pas quoi. Enfin, des choses comme ça qui te permettent d'embellir une photo. Aujourd'hui, ben, en fait, embellis ta photo, t'es content, ouais, super, j'embellis ma photo. Par contre, tu la retrouves pas sur ton explorateur de fichiers parce qu'elle est dans l'application Android, dans les fichiers de l'application Android que tu as utilisé. Donc, elle est dans Chrome OS, enfin dans l'application fichier de Chrome OS, tu ne la vois pas, tu ne sais pas où elle est, tu ne vois même pas l'application Android. Donc, pour les plus malins, on avait téléchargé des explorateurs de fichiers Android. Alors, beaucoup utilisent ES Explorer, enfin, je te reconnais peut-être aussi File Explorer, enfin, il y a plein de choses comme ça sur Android qui nous permettaient d'accéder à la même du Chromebook et du coup d'aller chercher nos photos et des choses comme ça. Pas très pratique, hein. Et ben ça c'est fini, la galère est terminée, on va enfin avoir directement dans l'explorateur de fichiers les fichiers qu'on a créés avec les applications Android. Et ça c'est parfait. Je crois que tu l'as récupéré sur ton Pixelbook, du coup l'application fichier, l'application Android, enfin le lien vers les fichiers Android.
Oui, mais en fait vu que j'ai pas. Tu me prends un peu de cours là, Nico. c'est-à-dire quand. Non, en fait, j'ai donc sur le Pixelbook, j'ai pas encore installé beaucoup d'applications Android, donc du coup, je pense que j'ai pas énormément de fichiers à explorer. Donc ça n'apparaît pas pour l'instant. Par contre, petit teaser pour la suite, je vois les. Comment ça s'appelle le. La rubrique fichier Linux dans mon explorateur de fichiers. Donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais on aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Mais ouais. Oui, en fait, en gros, pour résumer un petit peu ce que tu viens de dire, ce que tu viens d'expliquer avec brio, comme d'habitude, c'était un peu, en gros, on était un peu dans un univers parallèle, en fait. Il y avait un peu l'univers Chrome OS, donc avec les fichiers Chrome OS. Et puis, sur le même Chromebook, dans Chrome OS, on avait l'univers Android avec les applications Android qui ont leur propre système de fichiers Android. De façon assez logique, Google a décidé d'harmoniser tout ça et de présenter donc une rubrique pour chacun de ces univers, mais tout ça dans le même explorateur fichier, ce qui fait que c'est assez facile finalement pour vous de récupérer des fichiers Android dans votre explorateur de fichiers et de les faire passer par exemple dans votre Google Drive, tout ça en faisant juste un drag and drop.
Poser. Je traduis, hein, je traduis en instantané.
T'as dit quoi, excuse-moi, ça a coupé.
Un glisser-déposé.
Un glisser-déposé, j'ai dit drag and drop, pardon. Un glisser-déposé.
Je fais de la traduction instantanée, c'est pas grave, je suis un Google Deb.
Pas mal. Et donc du coup, je cherche une transition, mais je n'en trouve pas. Donc sans transition, les emojis arrivent sur Chrome OS. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas d'emojis sur Chrome OS avant, Nico?
Alors, c'est pas qu'il y avait pas. Tu pouvais en faire. Hein. Enfin, des emojis. C'est un peu des smileys, mais améliorés. Hein, on est d'accord, hein, les emojis.
Ouais. Alors, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui doivent bondir en disant, mais non, les smileys, ça, c'est les emojis, c'est tellement plus que les smileys. Mais bon, passons.
Embellis. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils tirent la langue.
Non, mais ils ont plus de. Ah ouais, c'est des ouais, smileys plus quoi. Ouais, c'est ça.
C'est bon. Ouais, ok. Ça change ma vie en plus. Depuis, je suis tout chamboulé. Maintenant, tu peux mettre une glace, un yaourt, tu peux mettre un petit ordinateur. Enfin bref, tu peux mettre tout ce que tu veux, c'est un emoji. C'est pas qu'il n'y en avait pas avant. C'est simplement qu'ils n'étaient pas super accessibles. Tu pouvais en avoir... ils sont apparus sur Chrome OS depuis que les Chromebooks sont tactiles. Par contre, il fallait passer en fonction tactile pour ouvrir le clavier virtuel pour ensuite aller chercher les emojis. Plutôt complexe. Il fallait 4 manipulations pour mettre un smiley super plus et puis un petit bonhomme bleu qui était pas content et puis qui avait des éclairs dans les yeux. Aujourd'hui, tu vas enfin dans ton texte, n'importe où dans Chromebook, hein, n'importe où, vraiment dans une application Android, dans une application Chrome, dans une application Linux, tu vas faire un clic droit à l'endroit où tu es sur la session d'écriture que tu as. Tu fais un clic droit, donc un clic droit, je le rappelle, on en avait parlé dans les gestuels, c'est deux doigts appuyés sur le trackpad ou en appui long sur l'écran de ton Chromebook. Et ben là, il va y avoir dans le menu contextuel un truc qui va s'appeler une rubrique qui s'appelait emoji. Et ben tu cliques dessus et là, bizarrement, le clavier virtuel apparaît directement sur les emojis et là tu cliques sur celui que tu as envie d'insérer dans ton texte. Donc c'est plutôt pratique. Là, j'ai essayé, je me suis un petit peu amusé sur Twitter à en mettre un ou deux. Bon, après je suis pas hyper fan des emojis, mais je comprends.
On a bien compris. Ouais. Et donc du coup c'est disponible pour tout le monde ou c'est encore il y a un flag en fait à activer, excuse-moi.
Ouais, il faut encore activer un flag et il faut être encore sur le canal dev. Mais n'hésitez pas, dans 6 semaines les aficionados d'emoji vont pouvoir s'en donner à cœur joie parce qu'il va apparaître et il fonctionne très bien, donc il n'y a pas de raison que Google ne l'implémente pas dans la version stable, dans le canal stable de Chrome OS.
D'accord, super. Cool.
Ouais. Donc j'ai parlé d'applications Linux, t'as entendu? Toi aussi. Donc alors, a priori, il y a des applications Linux qui arrivent sur nos Chromebooks.
Ouais. Et puis le hasard fait vraiment bien les choses puisqu'on est, on a tous les deux, chacun de nous avons les deux Chromebooks qui supportent les applications Linux. Donc là, ça fait vraiment, ça tombe bien.
Et bah du coup, je vais parler du mien parce que c'est moi qui décide.
Vas-y. je sais pas quoi te dire.
Donc j'ai le Samsung Chromebook Plus. D'ailleurs, j'en remercie toujours Thomas. J'en suis très très content. Et j'ai depuis, je dirais, une grosse semaine, 15 jours, accès aux applications Linux et ça change mon quotidien. Mais vous pouvez même pas savoir comment. Bah d'ailleurs, je vais vous l'expliquer. On peut donc depuis le canal développeur encore hein, accéder aux applications Linux. Alors Linux, pour savoir, Chrome OS, c'est du Linux. Hein. Tu me dis hein, si je me trompe parce que je suis pas un pro de tout ça, mais Chrome OS est développé autour de Linux sur un noyau Linux.
Ouais.
Et du coup, il est plutôt judicieux d'avoir accès aussi aux applications Linux. Ça devrait pas demander beaucoup de travail à Google pour que ça soit fonctionnel, je dirais.
Ouais, ça leur a juste pris 4 ans, mais ouais, c'est. Disons que je pense que ça posait, on va dire peut-être un peu plus de questions. Enfin, ça posait beaucoup de questions techniques, mais je pense qu'il y avait aussi une grosse partie de questions, une grosse partie ergonomie en fait, finalement, ou une grosse partie. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y avait autant à travailler l'expérience utilisateur et ils sont pas encore là, donc il y a à mon avis encore beaucoup de boulot pour rendre ça accessible à tout le monde que de travailler sur les questions techniques. Donc en effet, c'était assez facile de supporter les applications Linux sur Chrome OS.
Du coup, tu parles d'expérience utilisateur et je peux te dire que c'est assez bluffant. Moi, je suis bluffé, pour le dire. Ça fait 2 fois que je le dis, donc c'est vraiment bluffant. Ça fonctionne, mais du tonnerre de Dieu, comme dirait l'autre. Pour moi, ça, les applications Linux, une fois qu'elle est installée sur ton Chromebook, elle est pour moi native, elle est fluide, les fenêtres, elles bougent sans aucun problème, elles s'ouvrent très rapidement, l'interaction à l'intérieur de l'application est géniale, elle fonctionne en adéquation avec Chrome OS. En fait, tu cliques sur un lien, par exemple, dans une application Linux, ça va te lancer Chrome, mais celle de Chrome OS. Et ouais, c'est assez bluffant. Et moi, j'adore. Et je sais pas si j'en parle tout de suite. Non, on en parlera à la fin. Mais il y a des applications que j'utilisais pas et qu'il me manquait beaucoup, qui sont enfin disponibles grâce à ça. J'ai juste un petit reproche à faire, mais je le ferai à la fin quand on en reparlera avec ton Chromebook à toi. Mais c'est génial, enfin c'est bluffant et ça ouvre encore plus de possibilités. Donc maintenant, en fait, Chrome OS, c'est le couteau suisse des systèmes d'exploitation pour moi. Il sait tout faire. C'est Chrome OS, c'est Android, c'est Windows avec des émulateurs. Enfin, c'est pas des émulateurs, c'est des containers. Et puis maintenant, c'est Linux. Et on attend quoi maintenant? Mac OS dessus?
Ouais, c'est assez intéressant à suivre. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui y parlaient à une époque. Alors macOS, ça pose des questions. J'en discutais encore ce matin avec un copain qui m'expliquait qu'en fait, a priori, tu peux pas faire tourner macOS sur une machine qui n'est pas une machine Linux, ce qui n'est pas une machine Mac, enfin une machine Apple, pardon. Mais c'est plus pour des questions, comment dire, de licence et des questions de propriété intellectuelle, enfin de, ou en tout cas des questions légales en fait, que des questions techniques. Par contre, a priori, virtualiser une application Windows sur une machine Linux, ça c'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc c'est vrai que peut-être qu'on aura un jour la possibilité de faire tourner Linux sur un Chromebook. Mais en attendant, on a les applications Linux et il faut en profiter. Donc je pense que on en a discuté un petit peu en préparant cette émission. Tu expliquais que c'est vrai que l'installation est pas forcément la plus facile, mais bon, c'est un début, hein. On se rappelle tous comment fonctionnait Android sur Chrome OS il y a encore 2 ans, et on a vu que par la suite, dès qu'ils ont installé, dès qu'ils ont donné la possibilité d'avoir le Google Play, ça a vraiment simplifié les choses. Je pense que quelque chose de similaire va se passer pour Linux et qu'on aura assez facilement des raccourcis et des une façon assez ergonomique et assez facile d'installer les applications Linux sur Chrome OS.
Ouais, mais ouais, franchement bluffant et tu l'utilises déjà un petit peu, mais tu vas voir, enfin tu vas voir, j'ai pas besoin de te le dire, tu le sais, ça marche super bien quoi, c'est stable, c'est fluide, c'est réactif, c'est...
Ouais, et puis même les gens, les gens qui nous écoutent là, les DevOps, c'est les gens qui ont juste besoin d'un terminal finalement pour faire leur boulot au quotidien. Dites-vous qu'il y a un terminal supporté par défaut de façon native sur Chrome OS. Donc encore une fois, pour l'instant, c'est juste simplement 2 machines aujourd'hui qu'il supporte, mais ça va arriver sur tout un tas d'autres machines. Donc finalement, ça y est quoi. Si ce dont vous avez besoin, c'est juste d'un accès à Internet, enfin du web et de quelques outils de productivité et d'un terminal, et ben vous pouvez presque sauter. Enfin vous êtes, on y est presque quoi. Dans quelques mois, vous pourrez sauter le pas et utiliser simplement un Chromebook et vous aurez plus besoin d'avoir soit une machine Linux, soit une machine Mac pour faire votre travail au quotidien. Donc je pense que c'est vraiment une étape de plus qui est franchie en fait.
Sur plusieurs types de processeurs, hein. Le Pixelbook, j'ai un doute, c'est quoi le processeur qui est dedans?
Moi j'ai le Core i7 là, mais donc c'est
One dedans, je crois. Donc
ouais.
Sur le plus. Donc du coup deux archives
différentes. Ouais.
Ouais, différentes, donc c'est plutôt intéressant. Alors moi j'y connais rien en processeur, mais j'ai entendu parler de ARM ou un truc comme ça. Non, ARM, c'est quoi les il y a des processeurs ce qu'on met dans les smartphones, c'est quoi?
Oui, les processeurs ARM, c'est ça que tu disais?
ARM, donc le Oppo One, c'est un ARM.
Là, je t'avoue que j'ai pas
Ah,
préparé, j'ai pas préparé la
je
réponse à cette question. Non, mais en fait, enfin, si c'est vrai qu'on en avait parlé beaucoup quand le Chromebook Plus était sorti. T'as raison, Oppo One, il me semble que c'est ARM et en fait, donc du coup, c'est différent des processeurs, des architectures x86 qui sont disponibles pour Windows. Mais malgré tout, bah, je pense qu'en fait, on est en présence de deux configs, ouais, c'est ça, deux configs différentes. Ce qui m'avait un peu surpris d'ailleurs quand ils ont annoncé le Chromebook Plus, je me suis dit pourquoi le Plus et pas le Pro? J'ai toujours pas la réponse.
à cause du processeur, peut-être.
Ben oui, mais du coup, je pense que le Core i7 est plus proche du Chromebook Pro que du Chromebook Plus. Donc.
Là, justement, ils sont justement éloignés l'un de l'autre, le plus et le Pixelbook, et deux architectures différentes, ce qui couvrirait peut-être la totalité, enfin une grosse majorité des Chromebooks existants, entre les architectures
Ah
Intel et
ok,
puis
d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux
pour
dire.
justement tester la stabilité sur deux produits et diamétralement opposés, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que ils vont peut-être pouvoir implémenter ça sur tous les Chromebooks existants après. Peu importe l'architecture, ça fonctionnera peut-être.
C'est du coup, oui, d'accord. De ce point de vue-là, ça, c'est logique. Et en effet, oui, donc le Oppo One, c'est basé sur ARM. Donc ARM, a priori, c'est un chipset comme on dit, donc c'est un groupe de puces qui est plus légère et qui est faite en tout cas enfin les choses ont beaucoup changé, mais à l'origine qui était quand même pensée plus pour l'embarquer, là où les architectures x86 étaient plus orientées pour les ordinateurs de bureau, hein. Ça date du Pentium x86 ou peut-être même d'avant le Pentium x86, donc bah oui, ça date du x86 en fait, donc c'est avant la génération avant le Pentium, ouais.
Donc ouais, non, moi je pense que ouais, ils ont fait exprès de travailler sur deux produits bien bien distincts pour tester. Et ben leur test marche bien. Écoutez-moi Google, ça marche super bien. Continuez comme ça, je suis très content et encore plus content mon Chromebook aujourd'hui que je ne l'étais hier et je suis sûr que je suis encore moins content que je le serai demain. C'était clair ça? Ouais,
C'était
en fait.
très clair. Et
Ouais, c'est génial.
tu sais ce qui te rend encore plus content, Nico?
Non.
Le picture in picture.
Génial. Pardon, excusez-moi. J'adore ça.
Donc tu as, mais en plus, attends, mais j'invente rien. En plus, enfin, ça paraît un peu débile comme transition. Et c'est probablement un petit peu débile, mais tu me disais en effet que le Picture in Picture, t'étais vraiment content de le revoir
Ah ouais.
débarquer sur Chrome OS. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
Oui.
Il a disparu et il est de retour, c'est ça?
Au début de Chrome OS, en fait, tu avais une extension qui te permettait de. Donc, pour expliquer ce que c'est l'image dans l'image, et pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, mais tant pis, je serai redondant et vous accélérerez ce passage-là si vous connaissez déjà. C'est permettre d'afficher une vidéo en premier plan dans un coin de votre ordinateur et pour pouvoir continuer à regarder votre vidéo, mais à faire aussi autre chose en même temps sur un même ordinateur. Ça, moi, je trouve ça génial. Moi, quand j'écris, bah, j'ai toujours, je regarde beaucoup de séries. Enfin, j'écoute beaucoup de séries. Par contre, dans les séries, bah, je les écoute, mais j'aime aussi la vidéo. Quand il se passe quelque chose d'intéressant, et bah, du coup, je peux juste jeter un petit coup d'œil à l'image, donc je perds pas mon temps à regarder la série tout le temps, et je peux voir ce qui se passe, et je réagis. Enfin, quand mon oreille me dit, ouh, il y a un truc intéressant, on a découvert le tueur, ou Derek va fermer la porte, bref. Hop, mes yeux scrollent sur l'écran et je peux continuer à travailler tout en regardant un petit peu ce qui se passe sur ma vidéo. Et ça, je trouve ça génial. Elle est toujours en premier plan et peu importe ce que tu fais. Et ça fonctionne d'ailleurs même sur les applications Linux. Enfin, et ça avait disparu. Alors pourquoi? Aucune idée. Ils avaient enlevé tous les accès et depuis un petit mois. François Beaufort, encore lui, redéveloppe cette extension. Pour l'instant, elle n'est pas disponible sur le Chrome Web Store. Il faut pour l'instant l'empaqueter soi-même parce qu'il est en phase méga bêta alpha Tango Charlie, je sais pas quoi, enfin la version premium. Et aujourd'hui, ben ça y est, l'ère de retour et je peux recommencer à faire ça, à regarder mes vidéos tout en travaillant. Et moi, je trouve ça génial. Et elle marche. Au début, elle ne marchait que sur YouTube et elle marche de plus en plus sur d'autres plateformes, Netflix, j'en passe. Enfin, je les ai pas toutes en tête, mais maintenant je peux piper ma vidéo où je veux, quand je veux et comme je veux, et je peux la redimensionner, la déplacer. Enfin, c'est, moi je trouve ça génial. Je suis peut-être le seul, mais bon, si François l'a fait, c'est qu'il y a des demandes. Et enfin, je sais pas, toi, c'est quelque chose qui t'intéresse?
Ouais, alors j'ai utilisé un petit peu ça quand j'ai mis à jour mon Mac au boulot. Parce qu'on travaille sur un Mac, hein, pour vous donner un peu les détails de ce que je fais, même si je développe des applications Android, hein, je fais partie je sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas une grande partie de développeurs Android qui développent sur Mac. Et c'est vrai que, bah oui, quand c'est arrivé, quand le picture in picture est arrivé sur Mac, je me suis mis à l'utiliser aussi pour, typiquement, regarder des vidéos. Alors moi, c'est plutôt des vidéos, c'est pas forcément l'inspecteur d'Eric, c'est plutôt des vidéos de développement ou des présentations de conférences en général que je regarde au boulot en tout cas, ou des matchs de foot. Bon, allez, c'est vrai, j'avoue, des matchs de foot aussi. Mais
ouais.
J'avoue que bah, je regarde un petit peu le lien du comment ça s'appelle du code en fait, en gros, qui a été partagé par François Beaufort, qui est dans l'article. Faut le mettre. Sera dans les notes de l'émission. C'est quand même assez pointu. Il nous a fait tout un détail de comment ça fonctionne. C'est assez intéressant. Je pense que ce sera pas adopté si c'est aussi compliqué à installer. Donc je pense qu'il faut que d'une façon ou d'une autre ce soit réintégré à l'OS. Parce que sinon, faut vraiment être comme toi et être passionné par le picture in picture pour aller suivre les. C'est en 6 étapes, mais c'est quand même pas, à mon avis, à la portée de monsieur et madame tout le monde.
Il y a un flag à activer sur Chrome OS qui s'appelle Enable Picture in Picture, hein, quand même. Donc, à mon avis, il travaille dessus. Pour l'instant, il le met à disposition, en gros, pour du bêta test, pour que les gens puissent voir le travail où ça en est, pour ensuite être intégré à Chrome OS, à mon avis. Hein.
Ouais.
Enfin,
ouais, non, c'est assez bizarre en fait. En gros, c'est un peu comme si, oui, comme tu dis, tout était là, en gros, et ils l'ont retiré derrière, mais ils ont laissé le flag, et donc du coup, faut que tu réinstalles le logiciel, enfin, faut que tu réinstalles la fonctionnalité, et en plus, après, il faut que tu réactives le flag qui est resté là et qui est. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Bon, en tout cas, il semblerait que s'il l'ait fait pour quelqu'un, il l'a fait pour toi.
C'est ça. Il a dû m'entendre un jour pester devant mon écran, mais elle est où cette application de... Et voilà. Il
et
l'a fait. Merci François. On dit merci qui ? Merci François.
Merci François. Donc voilà, donc on parlait d'Apple il y a 2 minutes, donc j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de faire un épisode sans parler d'Apple. Donc comme vous le savez, il y a eu la fameuse WWDC cette semaine en fait. Ça se termine, on enregistre vendredi soir pour moi, enfin jeudi soir pour moi, vendredi matin pour toi. Donc ça doit se terminer probablement aujourd'hui ou ça s'est terminé hier. Donc du coup la conférence d'Apple comme d'habitude commence par ce qu'on appelle une keynote, donc qui est la conférence plénière, et donc du coup Apple a présenté un certain nombre de choses qui a été abondamment couvert dans le cadre de podcasts dédiés à Apple ou à la technologie en général, mais c'était en tout cas assez intéressant de notre point de vue de Chromebookophile de voir que Apple annonce le support progressif d'applications iOS sur macOS.
Ça me rappelle quelque chose, ça.
Donc voilà. Si,
y a pas un autre groupe qui fait ça déjà ? Attends, ça fait quoi, 2 ans ? Il me semble qu'il y a une grosse société qui. Ils étaient dans les smartphones et je crois qu'ils pesaient lourd sur le marché mondial d'ailleurs, ou qu'ils pèsent toujours lourd. Et ils avaient plein d'applications parce qu'ils avaient le store le plus fourni et ils se sont dit, tiens, on va faire des ordinateurs et on pourra installer les applications. Ah oui, mais c'est Google !
Et voilà, c'est Google, je me disais bien aussi.
C'est Google, mais oui.
donc en effet, Google.
Apple Imite.
Google fait un peu a fait un peu des émules du côté d'Apple. Bon, finalement, c'est assez logique. Hein. On a tout un tas d'applications. L'écosystème smartphone est très riche. Les applications sont là. bon, je pense que encore une fois, les gens qui connaissent un petit peu, c'est porter une application macOS sur porter une application iOS sur macOS, c'est un petit peu comme faire tourner des applications Linux sur sur Chrome OS. C'est globalement, c'est pas hyper compliqué. C'est quelque chose qui est quand même assez facile. Maintenant, il s'agit juste de le faire bien. Donc aujourd'hui, Apple en fait ils ont simplement porté leurs applications iOS, donc les applications développées par Apple. Mais assez rapidement, je crois que c'est à partir de la fin de l'année ou début d'année prochaine, ils vont permettre aux développeurs d'applications tierces de se mettre aussi à porter leurs applications iOS sur Mac. Donc voilà.
Mais c'est une bonne nouvelle en soi, hein, parce que bah, ça va ouvrir beaucoup de possibilités aussi aux possesseurs de Mac. Et puis, être imité, c'est déjà un peu avoir réussi.
Avoir donc, raison, ouais, exactement.
Avoir raison, donc Google avait raison. Et moi, de toute façon, on le savait dès le départ. Et ce qui est même étonnant, c'est qu'Apple ne l'ait pas fait avant. Parce qu'ils avaient les moyens de le faire avant, et aussi bien financiers qu'intellectuels. Hein. Enfin, Apple, on n'a pas de problème là-dessus. Bon, je les taquine, mais c'est parce que je les adore. j'aime les pommes. Et nouvelle en soi, c'est très une bonne nouvelle. Et puis, ça va peut-être encore ouvrir d'autres possibilités, parce que les développeurs qui vont développer du coup pour des écrans comme les Mac vont peut-être aussi développer des applications pour Android. Tu vois, les entreprises, enfin toi, tu développes aujourd'hui pour Android, mais j'imagine que tu as un groupe dans ton entreprise qui développe aussi pour Mac. Ils vont pas laisser tomber Mac ouais. Parce qu'il y a Android. Donc, quand tu développes pour un, tu vas peut-être aussi développer pour l'autre. Donc, ça va aussi peut-être indirectement ramener des applications disponibles sur Mac, sur iOS vers Android. Je pense à des applications toutes bêtes, complètement inutiles qui servent à rien. Mais tu sais, il y a une application pour faire de la musique sur Mac là qui est hyper connue. T'as des batteries, des guitares, machin, tout ça, qui est hyper connu, qui est pas sur Android. Mmh. Et peut-être une application comme ça pourrait peut-être arriver sur Android et ça plairait peut-être à beaucoup d'utilisateurs fans de son.
GarageBand, donc, c'est ça dont tu parles. C'est ça, penses.
Ouais. Ouais. D'accord. Je trouve ça, enfin, moi, l'application, je la trouve géniale. Je l'ai essayé, je suis très très nul, mais je trouve ça génial. Et j'imagine que ça peut peut-être être porté un jour grâce à ça, parce que voilà, je sais même pas qui développe ça, c'est peut-être même Apple.
Ouais, c'est développé par Apple, donc, je veux pas briser tes rêves, mais je pense que ça prendra quand même un petit peu de temps avant qu'Apple se mette à développer GarageBand sur Android. Mais bon, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça fait avancer l'écosystème, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc voilà, donc ça c'était la page de news. Donc tu vois, on a quand même fait une bonne demi-heure, hein, mine de rien.
Attends, je vais en rajouter deux. Je peux?
Allez, c'est parti.
Y a un truc qui m'intéresse pas mal et qui va peut-être intéresser pas mal d'utilisateurs, parce que je sais qu'on a des pros qui utilisent les Chromebooks au niveau professionnel, hein, c'est-à-dire dans leur entreprise. Y a un truc qui est apparu, qui va apparaître très très prochainement, c'est je disais tout à l'heure que l'explorateur de fichiers évolue énormément et que c'est le fil conducteur presque de ce podcast. Il intègre cette fois le Team Drive, donc tu sais le Google Drive, mais pour les pros.
Ouais.
Qui est lié à G Suite. Google Drive aujourd'hui, c'est à titre particulier, donc tu crées un fichier, tu peux le partager à quelqu'un, et si jamais tu enlèves le partage ou que tu t'es plus dans la même entreprise, ben le mec il a plus accès à ton fichier. Donc c'est con, ça fait 3 ans qu'il travaille dessus et que tu lui as enlevé son truc, il va être un peu vénère. Donc dans les entreprises, en fait, on peut créer un espace partagé, un espace d'équipe en fait, où tout le monde y a accès, mais c'est pas lié à une personne en particulier. Donc si cette personne qui a créé le fichier l'a mis dessus, ensuite il est accessible de tous ceux qui ont accès à cet espace partagé. Aujourd'hui, en fait, tu pouvais pas accéder à cet espace partagé via l'explorateur de fichiers de Chrome OS, qui est assez étonnant. Tu es obligé de passer par l'interface web. Et ben ça, c'est fini. On va enfin pouvoir, depuis l'explorateur de fichiers, accéder à notre espace partagé, donc sous l'intitulé Team Drive, qui te permet de visualiser, modifier tous les fichiers d'une équipe et de continuer à travailler sur des fichiers, même si la personne qui l'a créé n'existe plus dans l'entreprise. Enfin voilà, moi je voulais en parler parce que je trouvais ça plutôt intéressant pour les pros, et il y en a quelques-uns qui nous écoutent, donc je préfère leur dire que Google va les aider à mieux travailler à l'avenir.
Ok, super.
Ouais,
non, c'est clair que c'est un petit truc qui manquait, donc c'est bien de voir que ça arrive aussi de ce côté-là. Tu nous parles des eSIMs. Qu'est-ce que c'est que les eSIMs?
Alors c'est en fait c'est l'avenir de la carte SIM. Tu sais le bout de plastique qui est dans le smartphone là, que quand tu passes d'un opérateur à un autre, bah tu la jettes et t'en reprends une autre. Et puis l'opérateur en même temps il en profite pour te taxer ça 10 balles. Il fait un peu d'argent dessus évidemment, mais c'est normal. Il faut bien qu'il vive ce petit opérateur. Donc là, ici, en fait, c'est Apple, je crois, le premier qui avait voulu porter ce produit-là, dans mes souvenirs, mais je me trompe peut-être. Donc, dites-moi dans les notes de l'émission qui est la première société à avoir intégré les eSIM dans leur produit. Mais il me semble que Apple, il y a très très longtemps, voulait les intégrer pour ne pas avoir de carte SIM opérateur dedans. Donc là, eSIM, je te fais ça simple. En gros, c'est un produit, un matériel qui est intégré dans un smartphone à la base. Hein, c'était prévu pour ça, qui remplace typiquement la carte SIM. Donc c'est fini, tu ne changes plus de carte SIM. Quand tu passes d'un opérateur à un autre, eh ben, tu donnes juste la référence de la eSIM et ben, ils vont passer ton numéro de téléphone de l'opérateur A à l'opérateur B sans avoir à rien changer. Donc c'est fini, le transfert de données. Tu te souviens, avant tu passais d'un Nokia 3310 à un 3410 parce que tu étais hyper à la mode. Eh ben, en fait, tes contacts, s'ils étaient sur la carte SIM, bonne chance, quoi. Tu perdais tout, il fallait tout recommencer, c'était bien chiant. Et ben maintenant, on s'en fiche. De toute façon, il n'y a plus rien de stocké sur la carte SIM et elle est inhérente à l'appareil. Elle ne bougera plus. Ouais. Et ben ça, ça prend pas beaucoup de place. En l'intégrant dans le produit, on n'a pas besoin de faire de petits chariots pour l'entrer, l'enlever. Enfin, on gagne aussi en rigidité de l'appareil. On fait pas un trou supplémentaire. Et ce qui est intéressant, ces petites cartes SIM là, ça prend pas de place. Hein, c'est quelques millimètres. Et ben Google pense à les intégrer dans les prochains Chromebooks.
Voilà, ouais. Et entre-temps, j'ai fait quelques petites recherches. Donc, il semblerait que c'est en effet Apple qui l'a... C'est un projet qui est forcément... Hein, toutes ces spécifications et ces standardisations, c'est des choses qui prennent pas mal de temps. Et donc, tous les opérateurs et tous les consortiums de télécom au monde se réunissent pour définir les standards. Mais a priori, il semblerait qu'Apple ait lancé ça pour la première fois avec l'iPad Pro deuxième génération et l'Apple Watch série 3. Donc, c'était il y a à peu près un an, en effet, ouais. Et puis, entre-temps, Google a lancé le Pixel XL, et, Pixel 2, pardon, et Pixel 2 XL, et a aussi intégré la eSIM sur ces appareils-là. Donc ouais, bah, on est, en effet, à une époque où c'est assez logique, finalement, si on veut ajouter une fonctionnalité de connectivité à un appareil, d'utiliser une eSIM plutôt que de s'embêter à récupérer une SIM. Donc je pense que Google a de très très bonnes chances de mettre ça à exécution et que la prochaine version du Pixelbook aura probablement une eSIM intégrée.
Et c'est hyper intéressant, enfin, sur un Chromebook, tu vois, je vais prendre les détracteurs des Chromebooks et tous ceux qui, les hargneux du Chromebook, qui disent, ouais, mais un Chromebook, c'est un ordinateur, si t'as pas Internet, t'as rien. Et ben, maintenant, c'est réglé, t'as Internet dedans, mon gars.
Voilà. Okay? Et partout.
Et partout, quoi. Donc maintenant, tu vas te calmer, ok? Parce que Google, il t'a entendu et puis il a mis une eSIM dedans et maintenant il suffit d'avoir ton petit forfait et en France nos forfaits mobiles à Internet illimité sont pas très chers et tu vas pouvoir te connecter à Internet dans tous les lieux où tu as au moins du réseau mobile, donc normalement partout. Ouais. Après la connexion, peu importe, mais c'est super intéressant en fait. Alors moi j'adore l'idée hein, d'avoir Internet partout tout le temps quand je veux et pas être lié forcément à mon domicile ou à un lieu, à un point hotspot bien défini. Par contre ça me pose deux petits questions, enfin de petites interrogations. J'imagine, je sais pas si ça sera comme ça, mais le fait de devoir avoir une carte SIM, elle va chercher le réseau, hein, forcément, hein, c'est le but du jeu d'une carte SIM, elle va se connecter à un réseau. Mais on le voit sur nos smartphones qui ont des batteries de fou maintenant, ils tiennent une journée. Est-ce que ça va, enfin, ils tiennent une journée, puis encore, si tu l'utilises, ils tiennent beaucoup moins. Est-ce que ça va pas faire diminuer l'autonomie de nos Chromebooks? Est-ce qu'on va pas passer de 10 heures d'utilisation à 8 heures, par exemple?
Ouais, si. Enfin, je pense que il y a de grandes chances pour qu'à mon avis ça va. Enfin, l'autonomie. Il y a pas de miracle de ce point de vue-là. C'est clair que ça consomme beaucoup plus que d'être sur du Wi-Fi. Et puis le fait de changer de tour, l'utiliser par exemple dans le train, je pense que ça consomme encore plus que l'utiliser en restant dans un café sans bouger. Maintenant, ouais. Maintenant, je pense que bah ça fait partie un peu du prix à payer, quoi. C'est
Si ah bah tiens, veux... transition d'ailleurs. Deuxième problème, le prix. Est-ce que ça va pas encore augmenter le prix des Chromebooks?
C'est probable, ouais, c'est probable. Mais je pense malgré tout que si c'est généralisé, le fait que tu vois Apple l'ait déjà intégré à son iPad Pro et que ce soit déjà intégré
Comment ça s'appelle, l'Apple Watch, je pense que c'est quand même la preuve que finalement les coûts sont assez marginaux et que c'est assez facile d'intégrer ça dans des appareils qui sont pas trop trop chers. Enfin, Apple Watch, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus bon marché, mais globalement, à mon avis, les prix vont diminuer, quoi. Un peu comme le GPS à une certaine époque, tu vois.
Bon, enfin, parce que j'en reçois beaucoup de mails, beaucoup de commentaires. Donc, n'hésitez pas à rebondir dessus. D'ailleurs, j'en profite juste pour faire un petit rappel de comment on peut comment on peut échanger avec nous, si tu me le permets, Thomas. Et même si
Vas-y,
tu me le permets pas, d'ailleurs. Hein.
vas-y.
on a un canal. Non,
Non!
arrête, je veux pas qu'on me parle. J'en ai marre. On a le Telegram. Vous connaissez le Telegram. Le chat Telegram, on a un canal, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, où vous pouvez échanger avec nous directement. On t'y voit pas beaucoup d'ailleurs, Thomas. Tiens, je vais te faire un reproche, on t'y voit peu.
Je vais réactiver les notifications et essayer d'y venir un peu plus souvent.
La dernière personne qui a fait ça, elle s'est retrouvée avec 1 000 notifications d'un coup. Donc non, je conseille pas forcément de venir jeter un œil de temps en temps. Et parce que sinon, tu vas voir, moi, en milieu de journée, j'ai désactivé des fois, hein, parce que c'est pas possible. Mais ouais, échangez avec nous sur le canal Telegram. Le nom, c'est quoi? C'est CKB Show tout attaché, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc en fait, vous pouvez échanger avec nous et nous dire ce que vous en pensez de ce nouveau Chromebook. Mais bon, juste pour le, on peut aussi sur Twitter, MySpace encore. Putain, j'adore MySpace. Je vais le relancer ce truc-là. Donc on peut échanger avec nous sur Telegram, sur Twitter, sur le site directement, sur le CKB Show, sur Facebook, sur Google+. Bref, enfin, dites-moi ce que vous pensez d'un Chromebook. Parce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui me disent: ah ouais, mais un Chromebook, t'es gentil, le propre d'un Chromebook, c'est de coûter 200 balles, quoi. Et aujourd'hui, tu me sors un Chromebook à 500 balles, c'est plus dans l'ADN des Chromebooks. Mais on avait déjà eu ce débat-là quand le Pixelbook est sorti, où tout le monde nous disait: ah, mais 1 200 euros, c'est trop cher, c'est pas dans l'ADN des Chromebooks. Mais il faut voir tout ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Prends ça chez Apple, remets tout ce que le Chromebook sait faire chez Apple et combien ça coûte un Mac. Voilà, je voulais juste dire, on intègre des choses, ça va être un petit peu plus cher forcément, mais ça donne tellement de possibilités et c'est toujours très bas en termes de coûts, même si les prix sont assez élevés sur le papier. Oui, 800 balles, ça fait cher, mais ramenons ça à la concurrence, 800 balles, ça reste le moins cher de la concurrence, quoi. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais je voulais le dire. Arrêtez.
On a compris, on a compris.
Pas si cher, en fait. Une Porsche à 1 000 euros, c'est pas cher, quoi.
Ah bah non, ouais. Du coup, j'ai raté la logique en fait. Comment t'en es arrivé à dire que... Ouais, on a compris. Non mais c'est vrai
Mais tu
que...
vois, c'est pas parce que le produit, il est tellement exceptionnel, on peut comparer, enfin, c'est comme si j'avais une Tesla, il y a tellement de technologies dedans, mais à 30 000 euros, c'est pas cher une Tesla.
Je pense qu'on est, ouais, c'est ça. Je pense qu'on arrive à. Et puis en termes d'usage aussi, finalement, l'époque où, bah, c'est vrai que si on n'avait plus Internet, bah, on ouvrait une page et du coup la page se chargeait pas. On est quand même vraiment loin de. J'ai l'impression d'avoir dit ça des centaines de fois dans cette émission. Mais
Ouais.
c'est vrai qu'on est quand même loin de. On est quand même loin de tout ça. Et aujourd'hui, bah, encore une fois, avec les applications Linux qui commencent à pointer le bout de leur nez, on est quand même en présence d'un vrai ordinateur, en fait, finalement, un vrai ordinateur portable qui suffit à lui-même. Et donc, du coup, ben, un ordinateur portable à 250 ou 300 euros, eh ben, c'est quand même assez abordable, quoi.
Enfin voilà quoi, donc tout ça pour dire que ouais, c'est cool un Chromebook. Et dans les Chromebooks, tiens d'ailleurs, un petit aparté qui n'en est pas une, qui est une transition masquée. Tu m'as dit que dans le Pixelbook, tu avais pu activer Assistant, donc le Google Assistant, l'intelligence artificielle. Tu nous expliqueras comment tu as réussi à le faire toi, parce que nous en France, on ne pourra jamais le faire, je pense, ou dans très longtemps. Mais ça me permet de parler des assistants personnels, tu sais, les trucs qu'on a dans les maisons qui nous écoutent tout le temps et puis qui font ce qu'on leur dit.
En effet, ouais. Donc, petite section assistant. Donc oui, d'ailleurs, les choses qui nous écoutent tout le temps. Genre, je sais pas si t'en as entendu parler. On en a pas mal parlé ici. Il y a une Amazon Alexa qui s'est retrouvée, enfin Alexa qui s'est retrouvée à espionner des. Et d'ailleurs,
Les
en gros,
conversations d'un
ça, ouais.
couple.
Tu vois, je regarde si je l'ai pas activé en disant son nom, mais c'est bon. Donc voilà, qui a espionné la conversation, donc a enregistré toute une conversation. Et qui a envoyé un message avec cette conversation à des amis de ce couple en question, sans même qu'ils se rendent compte de quoi que ce soit. Et en fait, donc c'est un truc qui a été abondamment couvert par les blogs et comment ça s'appelle, les podcasts tech en particulier. Et d'ailleurs, Tech Café des deux Guillaume en a parlé aussi. Je pense que ça remonte au moins à 2 émissions maintenant. Mais donc ils ont bien expliqué les choses et Guillaume disait c'est vraiment en gros une succession de faux positifs en fait. En gros c'est l'appareil, enfin l'Amazon Echo a compris que vous avez demandé enregistrer un message alors que vous avez jamais dit enregistrer un message. Après il enregistre le message. Après il a compris que vous vouliez l'envoyer à un tel alors que vous avez jamais dit que vous vouliez l'envoyer à un tel. Et tout ça se passe sans même que vous vous rendiez compte et sans même que vous entendiez le feedback audio de l'appareil. Donc je pense qu'on est quand même c'est un peu un truc à la Gaston Lagaffe. Hein. C'est en gros toute une succession d'événements, ouais c'est ça, d'événements improbables qui font que bah ça finit par se produire. Je suis pas sûr que ça se reproduise tous les jours et puis bon le fait d'avoir eu autant de couverture médiatique autour de cet événement là, à mon avis bah les gens d'Alexa vont probablement se pencher sur la question et faire en sorte que ça se reproduise plus. Mais voilà, c'était notable. Donc voilà, ça c'était l'intro. On n'avait pas du tout prévu de parler de ça, mais j'en ai parlé quand même. Mais par contre, ce dont on avait envie de vous parler déjà, c'est du fait que Alexa arrive sur Xbox. Donc c'est assez inattendu et pas complètement inattendu. Inattendu parce qu'on pourrait se dire, mais attendez, Xbox et Microsoft. Microsoft, il y a Cortana. Pourquoi est-ce que Microsoft met pas Cortana sur sa Xbox? Je pense que
c'est nul, ça marche pas.
Bah voilà, je pense que pour dire un petit peu différemment, je pense que Microsoft se rend compte que il y a quand même aujourd'hui trois gros acteurs et encore je dis trois, mais c'est plutôt 2.5. En gros, c'est Alexa, Google et Siri. Siri il compte pour la moitié. Et c'est vrai que se dire que rivaliser avec ces assistants-là, finalement, c'est peut-être pas forcément une aussi bonne idée que passer un partenariat avec Alexa, qui à mon avis est à la recherche de partenariats et de synergies. Qui a déjà un accord avec Cortana. Je sais pas si on en avait déjà parlé dans l'émission, mais aujourd'hui, il me semble que c'est live. Aujourd'hui, on peut demander, en tout cas aux États-Unis, demander à Alexa de demander à Cortana de récupérer des informations de notre machine Windows. Donc,
assistant ouais. Pour un assistant, c'est
ouais,
ça.
En gros, c'est ça. Donc, c'est clair qu'en termes de en termes d'ergonomie, je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot. Mais aujourd'hui c'est faisable, donc il y a déjà des connexions, vas-y, ouais, entre
moi l'hiver j'ai une paire de gants et je mets une paire de gants sur ma paire de gants pour pas que ma paire de gants ait froid.
Voilà, c'est un peu la version de jurassienne du protéger les mains pour le froid. En gros c'est ça, t'appelles Alexa pour appeler Cortana. Microsoft a priori va passer un accord avec Amazon pour intégrer Alexa à Xbox. Moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Enfin je sais pas ce que t'en penses toi Nico.
Ouais, ça me fait sourire. Non mais après c'est des usages différents donc c'est ça qui est intéressant. Je crois que tu me l'as dit ou pendant la préparation, il y a un usage pro puis il y a un usage perso. Les deux vont pas travailler de la même façon. Cortana va être plus c'est quoi, tu me disais Cortana plus pro, c'est ça, parce que lié aux outils Windows et compagnie, alors que Alexa est plus dans le particulier, voilà, faire ta liste de courses, lancer ta musique, acheter sur Amazon, c'est pas fait pour ça, Amazon Echo, c'est pas fait juste pour qu'Amazon vende encore plus.
À la base c'était ça, ouais. C'est
maintenant t'auras même plus besoin de lui parler, il va décider tout seul si t'as besoin de papier toilette en fait maintenant.
C'est un peu l'idée, ouais. Ouais.
Ah, donc, c'est deux usages complètement différents.
Oui,
effectivement. C'est pas bête, mais est-ce que c'est pas un peu compliqué pour le commun des mortels de faire le choix de quel assistant utiliser? Tu vois, moi l'assistant, ce que j'entends, je lui dis fais ci, appelle Paul, et ben il va appeler Paul, et je vais pas lui dire Alexa, demande à Cortana d'appeler Paul. Ouais. Tu vois, il faut que je me rappelle que Paul, il est sur mon fichier contact pro et pas particulier. Et donc, du coup, il faut que je lui dise d'aller chercher au bon endroit. Moi, un assistant, j'entends un truc qui sait tout, en fait. Enfin, qui sait tout. En gros, j'ai pas trois secrétaires, quoi. J'en ai une. Ma secrétaire, elle saura faire la différence entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Je lui dis, appelle ma femme, et il appelle ma femme, quoi. Va chercher mon costume au pressing, elle va chercher mon costume. Il, puisque c'est un assistant, il va chercher mon costume au pressing. Il va pas me dire, oui, mais vous voulez prendre le costume pro ou particulier? Bah, prends les deux. Si tu vas, t'es con, quoi. Tu vois, et c'est ça qui est, je trouve, dommage de devoir utiliser deux assistants, qu'ils utilisent la technologie des deux, moi ça me gêne pas en soi, mais qu'ils fassent une interface qu'on n'ait pas à demander sur un tel ou un tel.
À demander deux fois, en fait, finalement.
Ça dommage. Demande à Alexa de faire ça. Demande à Cortana de faire ça. Ouais. Dis Alexa, demande à Cortana de. Et puis après, on pourra le lier à Google. Alexa, demande à Cortana d'appeler Google, Google Mini. Non, mais non, allô, quoi. Alors, après, on va appeler Siri. Non, je trouve que c'est dommage. L'utilisation, l'intuitivité disparaît et c'est la. Enfin, moi, c'est ce que je trouvais intéressant dans un assistant. C'est que ça soit simple, c'est que un enfant de 3 ans puisse demander sans se poser la question de quel assistant utiliser.
Ouais. Ouais, non, c'est clair. Enfin, je pense que. Et d'ailleurs, je dis ça, mais on est. Donc là, je parlais d'Alexa qui arrive sur Xbox. Et donc, d'ailleurs, Alexa sur Xbox, c'est pas Alexa plus Cortana, c'est bien Alexa, juste Alexa sur Xbox. Alexa plus Cortana, c'est en gros quand on veut utiliser Cortana par l'intermédiaire de l'Amazon Echo. Mais c'est des. Ce qu'on décrit là, c'est des choses qui existent aussi pour Google Home, par exemple. Google Home. Enfin moi j'ai les télécommandes Harmony de Logitech pour pouvoir commander la télé et donc alors c'est encore le cas aujourd'hui, on dit Google Home demande à Harmony de faire ça et donc je pense qu'avec le temps ça va s'améliorer, mais aujourd'hui on fait encore cet effort de dire à Google Home de parler à une sous-partie d'assistant particulière pour faire une tâche spécifique.
Ouais, après, pour les plus avertis, mais c'est dommage, effectivement, tu peux paramétrer des routines en fonction, tu lui dis, allume la télé, il va utiliser ta télécommande pour faire ça, tu peux créer ta routine dans mes souvenirs.
Ouais, en effet. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait ça. Mais ça reste, ça reste compliqué. Voilà, c'est ça. Et puis, forcément, tu demandes un truc, la réponse, en général, c'est, désolé, mais je ne peux pas encore faire ça. Ou désolé mais je n'ai pas compris ou je ne sais pas comment vous aider pour faire ça, donc ça reste assez compliqué on va dire pour décrypter et pour comprendre un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas bien fait en fait et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir au résultat, on n'arrive pas à arriver au résultat qu'on souhaite obtenir. Donc voilà. Et donc dans une nouvelle un petit peu plus positive ou un petit peu moins on va dire neutre, il y a Amazon Echo qui arrive enfin en France. Donc Nico, donc toi tu faisais partie des heureux chanceux qui ont pu le tester au cours des derniers mois. Donc t'as une vision assez claire et assez objective sur Amazon en français. L'Echo en français, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Eh ben techniquement, je le trouve très très intéressant. Alors, j'ai du mal à le dire parce que du coup, en disant que Alexa est bien, je vais dénigrer un petit peu Google Home en fait, parce qu'il réagit super bien. Il a des interactions qui sont vraiment très bonnes. Le discours est hyper fluide. Il va aller chercher des informations. Tu vois, tu vas lui demander quels sont les matchs de la Coupe du Monde qui arrivent en premier. Il va te dire, ouais, il va te sortir le match directement. Tu vas lui demander, mais quelle est la formation de l'équipe? Il va te le sortir. Et ce que fait pas forcément Google Home, en tout cas, il le fait beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins intuitif, je trouve. Ils sont vachement améliorés. Au début, tu te souviens, je te disais qu'il y a des trucs qu'ils comprenaient plus, mm-hmm. qu'ils comprenaient pas. Je pouvais pas lancer. Je crois que c'était une radio que je pouvais pas lancer. Je crois que c'était ouais. RTL. RTL, ils savaient, mais RTL2, ils savaient pas. Bon, ça, c'est corrigé. Ils ont corrigé beaucoup de choses et ça a été assez rapide, hein, puisque c'est 3 mois. Et c'est assez bluffant. Et ce qui est génial, c'est que Amazon, ils sont quand même très puissants, très forts. Moi, celui que j'ai, c'est le Alexa Echo. Non, c'est le Echo. Enfin, c'est le gros, là, moi, que j'ai. Je ne sais plus lequel c'est.
Ouais, c'est le Echo.
En fait, c'est le Echo. Le son est vraiment parfait. Enfin, il est vraiment génial. Et Amazon, ils lancent leur truc en France. Ça y est, il est disponible. Hein, vous pouvez déjà l'acheter. Ils lancent en France à un prix. Ils attaquent clairement le marché de Google. Hein, ils veulent l'écraser comme ils l'écrasent aux États-Unis. Mais ils vont plus loin encore parce qu'ils offrent à tous les utilisateurs de tous les possesseurs d'un compte Amazon Prime, tu sais, acheter les frais de port gratuits, livraison en 24 heures ou en une heure si tu habites dans le coin. Mmh. À tous les utilisateurs de ça, ils proposent gratuitement en France, c'est peut-être pareil aux États-Unis, tu me diras, mais ils proposent Prime Music, je sais pas s'il s'appelle comme ça, c'est l'équivalent de Google Play Music, de Spotify et compagnie. Mmh. Ils ont 2 millions de titres offerts à tous les possesseurs d'un Amazon Prime et d'un Echo. et c'est assez bluffant, quoi.
Ouais, enfin, c'est pas mal, ouais. On sent qu'ils ont envie de récupérer le retard, en fait, qu'ils ont sur Google, hein. Tu disais qu'ils l'écrasent aux États-Unis. Alors, c'était vrai jusqu'à Noël dernier, en fait. Et donc, depuis, en gros, le deuxième trimestre de cette année, il semblerait que Google ait quand même pas mal refait son retard par rapport à Amazon. Enfin, il est toujours derrière, mais on va dire qu'il rattrape son retard tout doucement par rapport à Amazon. Donc on a.
C'est plus aussi plat. Moi, c'est bien.
Ouais, c'est ça. Mais je crois qu'on parle de. Alors, je sais plus. Je crois que c'est 10 millions de foyers équipés. Je crois que c'est 10 millions de foyers équipés par Google, il me semble, de Google Home. Et donc, ça doit être un peu plus de par Amazon Echo. Donc ça donne un petit peu l'ampleur de la couverture, ou enfin je sais pas, ou du taux, le taux de pénétration. Enfin, aux États-Unis on est 350 millions, donc je sais pas combien ça fait de foyers exactement, mais ça doit être une centaine de millions de foyers. Donc tu vois, on est quasiment à un foyer sur trois qui est équipé d'assistants, quoi. C'est quand même assez impressionnant.
Donc, avec l'arrivée en France d'Alexa, d'Amazon Echo, Dot et compagnie, puisqu'ils déclinent tout, hein, il est disponible l'Echo Dot, l'Amazon Echo et l'Echo Spot. Le Spot, c'est avec un petit écran, je le trouve sympa, hein, très très sympa, je suis pas sûr de pas l'acheter d'ailleurs. Peut-être un petit écran, alors ça paraît anodin, ça sert à rien, beaucoup disent, mais ça sert à quoi? Déjà, il est pas très gros, mais t'as un écran avec l'heure qui est affichée dessus, donc ça peut très bien te servir de point d'heure dans ta maison. Tu as la météo qui passe dessus, t'as des informations, t'as la radio, tu vas voir la jaquette de la pochette de CD, enfin plein de choses comme ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il casse les prix, hein. L'Echo Dot aujourd'hui, il est à 30 euros en France, frais de port offert. L'Amazon Echo, qui est exceptionnel, qui normalement coûte 100 euros, il est à 50 euros. Bref, ils font 50% sur tous leurs produits. Et ils sont allés encore plus loin parce qu'ils ont dû signer des partenariats, parce que ils vont même te proposer des produits avec le système connecté qui va bien. Donc, ils ont signé des partenariats avec, je crois que c'est Philips Hue, pour te faire un pack à prix à 160 euros avec les ampoules, le pont, tout lié. En fait, c'est un pack global. Je sais pas si tu, ouais. C'est vraiment génial. Enfin, alors que t'as pas ça chez Apple, chez Google, pardon. Bah, chez Apple non plus d'ailleurs, avec leur truc là. Ouais. Désolé, mais ils ont fait, ouais, il y a un pack avec des prises connectées, un pack avec le kit Philips Hue Color, un pack avec le thermostat connecté, un pack avec, Philips Hue White, et tout ça à 50%, quoi. Donc en fait, tu peux partir avec un package complet et tu prends pas la tête parce que tout est déjà pré-paramétré avec des routines déjà créées et des prix canons, hein, sincèrement. Si vous cherchez un système tout embarqué et puis une clé en main finalement du truc, c'est plutôt intéressant, hein.
Ouais, non, c'est clair.
Le pack là avec les Philips Hue, donc il y a trois ampoules, le pont, tout et tout. Donc les ampoules, rien que ça vaut déjà 140 euros normalement.
Ouais.
Là, t'as 179 euros avec l'Amazon Echo dedans.
Ouais,
et l'Echo, hein, le gros produit, celui qui a un vrai bon son, quoi.
Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc c'est, voilà, je pense que la France, encore une fois, ça démarre là. On a donc Amazon, Google qui a pris de l'avance, mais je pense qu'Amazon va rattraper son retard. Entre temps, j'ai fait des petites recherches là, sur le taux de pénétration. Donc juste pour les États-Unis, donc c'était avant les fêtes de Noël, là, les chiffres que je donne. En gros, il y avait 45 millions d'appareils vendus. Que ce soit combiné Alexa, enfin Amazon Echo, Alexa et Google Home.
Ah ouais.
Tu vois, 45 millions d'appareils vendus, ça c'était avant les fêtes de Noël, donc on peut imaginer que à Noël, c'était un peu comme en France, hein, c'était un des cadeaux phares, on va dire, de Noël. Donc ça a peut-être pas doublé, mais en tout cas ça a pas mal augmenté depuis. Donc je serais pas étonné qu'on soit presque 75 millions, si ce n'est plus, d'appareils installés aujourd'hui aux États-Unis, quoi. Donc, ouais. Donc voilà. Donc c'est une plateforme. Les développeurs qui nous écoutent là, c'est une plateforme à mon avis à suivre de près, parce que ce sera peut-être pas comme les smartphones, ou en tout cas peut-être pas comme les smartphones tout de suite. Mais globalement, je pense qu'on est quand même en présence d'une plateforme assez intéressante pour les développeurs.
Ah, c'est cool. Non, mais c'est bien. Puis, de toute façon, ça, la concurrence n'a que du bon et ça va faire forcément bouger Apple, Google, Microsoft et compagnie pour nous offrir encore une meilleure expérience utilisateur, un meilleur confort. Bref, c'est génial. Non, mais c'est bien. D'ailleurs, Amazon sort un nouveau truc, tu m'as dit, je crois.
Ouais. Oui, en fait, c'est spécial Amazon, en fait, cette page assistant. Donc, oui, Amazon, ce matin, ou tout à l'heure, a annoncé quelque chose que j'avais pas du tout vu venir, qui est le Amazon Fire Cube. Et donc, en fait, c'est un nouvel appareil qui est le parfait croisement entre l'Amazon Fire TV et l'Amazon Echo Dot. Donc, si vous vous rappelez un petit peu de la Fire TV, donc je sais pas si elle était dispo en France, le Fire Stick était dispo en France, c'est ça, Nico, tu me disais?
Ah ouais, moi je l'utilise, je trouve ça génial. C'est, en gros, c'est une Android TV, mais c'est un port HDMI en fait. C'est une clé HDMI que tu branches sur ta télé,
ouais,
avec une interface. Donc, ceux qui ont des télé connectés, est-ce que c'est judicieux? On en parlait tout à l'heure, je suis pas sûr. Par contre, ceux qui n'en ont pas ou qui veulent avoir accès directement uniquement à certains, comme Amazon Prime, Prime Video ou des choses comme ça, ouais, c'est vraiment génial. Moi, je suis assez fan. J'en ai acheté, comme tu disais tout à l'heure, j'en ai acheté deux.
Ouais. Moi, je l'ai utilisé. On l'a débranché parce qu'on la télé a les apps directement intégrées dessus maintenant. Mais c'est vrai que je l'avais utilisé. J'ai utilisé un petit moment et c'était globalement assez bien foutu. Hein. C'est un peu comme les fameuses Chrome Beats dont on vous a parlé de temps en temps. Donc la petite clé HDMI qu'on branche derrière la télé et qui vous donne accès à une qui transforme votre télé en télé connectée en fait. Donc là, la Fire TV Cube. Un peu la même chose, hein. C'est quelque chose qui vient se brancher sur votre télé, sauf que en plus on retrouve les quatre boutons de l'Amazon Echo sur le haut et on peut parler à ce petit boîtier qui fait qui doit faire à peu près un peu plus gros que la taille d'un Echo Dot, donc qui est un cube en fait, donc qui embarque Alexa mais qui vous présente aussi donc toutes les applications pour qui tourne sur la Fire TV, enfin la plateforme Fire TV d'Amazon. Donc voilà, intéressant, $120, a priori disponible seulement aux États-Unis, et puis c'est en précommande à $90 à peu près. Donc voilà, d'accord. A priori uniquement disponible aux États-Unis pour le moment. Oh, j'ai oublié de préciser, c'est du 4K, donc en gros, je pense que c'est vraiment un moyen de rendre votre télé un peu plus intelligente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si vous n'avez pas de Chromebook, de Chromecast et que vous êtes un peu plus, vous avez un peu plus d'affinité avec l'écosystème Amazon qu'avec l'écosystème Google. Voilà, jetez-y un coup d'œil.
Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Mais on va essayer de se recentrer sur Google hein, quand même, parce qu'on parle de Chrome OS, tout ça. On peut parler d'assistant à travers ton Chromebook, tu l'as utilisé. Déjà, tu peux nous parler du Pixelbook, parce que tu as eu la chance d'assister à la Google I/O. Et du coup, en tant que développeur, tu as eu la chance de pouvoir accéder à un tarif intéressant sur le Pixelbook. Donc, du coup, tu en as profité. Et tu peux me faire un petit peu tes retours. Comment est-ce qu'il te plaît? Comment il est? Comment tu l'utilises? C'est quoi un Pixelbook?
Ouais, alors, beaucoup de questions. Donc, je l'ai reçu vendredi dernier. Donc, ça fait une semaine, pas tout à fait une semaine que je l'ai eu. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu énormément de temps pour vraiment l'explorer de fond en comble. Mais déjà deux choses, donc forcément une fois qu'on l'a, puis bon après je l'avais vu avant, j'ai des copains qui l'ont donc j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec. Deux choses à noter, c'est une très très bonne machine, très très bien finie, on est vraiment, il est très léger, il est très très fin, il peut comme la plupart des Chromebooks un peu modernes, on peut l'utiliser en mode tablette et donc le replier à 360 degrés et l'utiliser en mode tablette. Le clavier est rétroéclairé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est ça, c'est des petits détails, mais finalement, c'est vrai que pour avoir utilisé un Chromebook qui n'avait pas le clavier rétroéclairé, ça commençait un petit peu à manquer. Le trackpad en vert fonctionne très bien, donc il y a le support des gestures. Enfin, on est vraiment en présence d'un appareil qui est très bien fini. Il a, de temps en temps, il met un peu de temps à démarrer, donc des fois on l'ouvre, on appuie sur le bouton, puis il se passe rien pendant 3-4 secondes, et puis ça finit par démarrer. Il y a des petits trucs comme ça qui font que je pense que c'est des choses qui peuvent être assez rapidement corrigées par des mises à jour logicielles, mais on sent que de temps en temps, c'est pas complètement aussi abouti que pourrait l'être un Mac, par exemple, pour comparer avec ce que j'utilise pas mal au quotidien aussi. Mais voilà, donc très très bon appareil, très très bien fini, et clavier très très facile à utiliser. Donc de ce point de vue-là, très très content du point de vue matériel.
Ça, c'est bien. Et tu peux donc dessus, tu as pu tester donc l'assistant de Google, je crois. Parce que c'est le seul d'y avoir accès, tu dois avoir un bouton pour appeler l'assistant, il me semble. Est-ce que ça fonctionne et à quoi ça sert vraiment sur un Chromebook ou est-ce que tu en vois une utilité quelconque?
Ouais, alors en fait, donc ouais, c'est quasiment le premier truc que j'ai essayé de faire et ça marchait pas. Et il m'a fallu un moment pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça marche pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait Google Assistant, donc il l'affichait pas forcément au début, mais après par la suite en le redémarrant plusieurs fois, à chaque fois que j'essayais de l'ouvrir, il me disait Assistant ne supporte pas ce langage en français dans le texte. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'utilisais Chrome OS en français. Et donc Assistant n'était disponible que alors je sais pas exactement quel local il supporte, mais clairement il fallait utiliser le Chromebook en anglais pour pouvoir utiliser Google Assistant. Donc du coup une fois que je l'ai passé en anglais, là ça s'est mis à marcher. Comment est-ce que j'utilise? Ben écoute, c'est pas forcément. Enfin, en fait, c'est, je sais pas comment le décrire. Je sais pas comment le décrire. En fait, c'est quand on l'a pas, on se dit, ben, pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis assistant? Puis une fois que tu l'as, tu fais, bon, bah voilà, ils ont mis assistant, c'est cool. C'est un peu, comment dire? C'est pas forcément essentiel, mais c'est assez logique comment dire, de le retrouver finalement sur Chrome OS en fait. Un petit peu comme quand tu l'as sur Android finalement, tu vois, ne pas avoir Google Assistant sur Android, bah ça fait quand même un petit peu bizarre, mais bon, une fois que tu l'as, ben c'est pas non plus révolutionnaire quoi. Tu utilises Google Assistant parce qu'il est là mais c'est pas forcément enfin je sais pas si je me fais si je suis clair. J'ai l'impression que mon explication tourne un petit peu en rond là.
Assistant sur mon smartphone, par exemple, j'utilise principalement en voiture, moi. Après, c'est mon usage perso, mais je l'utilise, voilà, je lui demande d'envoyer un SMS pour pas toucher mon téléphone. Quoi. Je lui dis envoie un SMS à un tel, je dis que mon SMS, il me l'envoie. Je lui dis lance un appel à un tel ou décrocher l'appel. Je trouve ça intéressant en mouvement parce que je peux pas le toucher, mon téléphone. Par contre, quand je le touche, je parle pas à mon téléphone. Tu te souviens, on avait eu la discussion, enfin, j'ai du mal à parler à mon assistant dans la rue pendant que je marche. Tout le monde va me regarder en train de lui donner des ordres. Ça fait bizarre. Enfin, je trouve ça assez bizarre. Et du coup, sur un Chromebook, bah, je sais pas, j'ai du mal aussi. Enfin, là, je vois pas du tout l'intérêt. Enfin, c'est génial. C'est évident que ça devait arriver dessus. Mais, tu sais pas, enfin, j'arrive pas. Je vais pas lui dire écris un mail, puis je vais pas lui dicter un mail de 800 mots. Enfin, un mail, il faut que ça soit à peu près construit. Un SMS, tu t'es un peu loupé, c'est pas très grave. C'est plus informel, mais un mail, enfin, ça reste quelque chose de construit. Enfin, je sais pas, j'ai du mal. Lance-moi l'application, machin. Ouais, enfin, j'avais un clic avec mon doigt à le faire, et puis
Ouais,
si je suis
voilà.
sûr que je peux le faire.
Je suis assez d'accord. En fait, c'est vrai que c'est, je vois pas exactement dans quel contexte je me mettrais à l'utiliser. Dans la mesure où, bah déjà, on a, enfin là, à la maison, quand j'utilise à la maison, il y a des Google Home partout. D'ailleurs, j'ai installé le quatrième Google Home dans la salle de bain tout à l'heure.
Il n'y a plus de pièces de maison. Il n'y a plus assez de pièces dans la maison. Il faut qu'il change.
Clairement, ouais, là on arrive un peu à saturation, ouais, c'est clair. Donc tout ça pour dire que je suis un peu à portée de voix d'un Google Home partout. Donc c'est vrai que de... Comment?
Plus d'un Alexa pas loin.
En plus d'un Alexa, ouais. Donc bon, alors après, bon, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est vrai que du coup, bah oui, si on n'a pas Google, si le téléphone n'est pas à côté, par exemple, et qu'on n'a pas un Google Home à côté, ben peut-être que ça peut être utile finalement d'appuyer sur un bouton, de déclencher Assistant et de passer une commande. Voilà, je sais pas exactement comment dire. C'est un peu comme avoir ces SMS qui arrivent directement sur votre ordinateur. C'est bien, mais c'est pas forcément quelque chose dont vous avez besoin au quotidien, en fait.
Tiens, juste flash news, un truc qu'on n'avait pas prévu. Il vient de tomber une nouvelle neuve, toute neuve à l'instant là. Est-ce que je peux en parler vite fait puisque tu
Allez,
me fais une
vas-y, vas-y.
transition comme recevoir ses SMS sur son ordinateur, est-ce que c'est intéressant ou pas? Bon, on va bientôt pouvoir se poser la question sur Chromebook parce que il y a un commit qui vient de tomber, un nouveau commit qui parle de l'intégration de Android Messenger sur Chromebook.
Ouais, d'accord.
Qui lierait ton smartphone à ton Chromebook via l'application Android, un peu comme ils le font avec Allo, Allo et Duo, en fait, a priori. Et donc, tu pourrais enfin recevoir tes SMS et les renvoyer depuis ton Chromebook. Voilà, c'était une petite aparté parce que je l'ai lu en diagonale pendant que tu parlais.
D'accord.
Ça vient de il y a 2 minutes.
Okay. Là,
plus frais que ça, il n'y a pas.
C'est clair. Ouais, non, bah, c'est sûr que oui, on y arrive tout doucement, hein, d'avoir les messages qui nous arrivent directement sur notre ordinateur. Après, je sais pas, hein, moi j'ai quasiment toujours mon téléphone dans la poche ou à portée de main, donc finalement, si j'ai envie de taper un long message ou faire un copier-coller, peut-être que c'est plus simple de pouvoir faire ça directement à partir de l'ordinateur ou taper ça au clavier, mais ouais. Globalement, je sais pas exactement si ça va être un usage révolutionnaire. Mais une fois qu'on l'aura et qu'on commencera à l'utiliser, ben le jour où tu l'auras plus, tu diras ah bah c'est dommage de plus avoir accès à mes SMS directement à partir de mon ordinateur.
Moi, la bonne chose que je peux voir, c'est en cas de handicap. Tu vois, ça peut être utile, toi, d'accéder par la voix, en fait. Est-ce qu'elle peut nous dire les choses? Est-ce qu'on peut lui dire des choses? Ça peut être intéressant parce que tablé sur un écran tactile, quand t'as un problème visuel, par exemple, un problème de vue, ça peut être pas forcément évident. Donc, lui dire, ça serait peut-être plus facile. Je sais pas. De ce côté-là, c'est peut-être un point de vue intéressant à regarder. Mais voilà, je vois pas trop autrement. Enfin, pour l'instant, j'arrive pas à me habitualiser.
Ouais, donc assistant, ouais, c'est clairement un des usages, une des fonctionnalités un petit peu unique du Pixelbook. Mais bon, je pense que ça va arriver sur d'autres appareils, hein, y a pas de raison. Mais par contre, on en a abondamment parlé là au cours de cet épisode. C'est clair que d'avoir l'accès aux applications Linux, ça, par contre, ça change vraiment la vie. Donc j'ai commencé à installer, je me suis mis au développement de Flutter. Donc les développeurs qui nous écoutent, je recommande à tout le monde de jeter un coup d'œil à Flutter, qui est le nouveau framework de développement mobile lancé par Google. Et c'est vraiment vraiment sympa. Enfin, je m'amuse comme un petit fou avec ça. Mais donc du coup, on peut développer sur Flutter, mais aussi Android de façon générale sur Chrome, enfin sur le Pixelbook, en activant les applications Linux avec Android Studio. Et ça, pour le coup, bah, ça change vraiment la vie, quoi. Toi, tu nous parlais de Thunderbird, ouais. Mais je pense que ça va vraiment faire une grosse différence d'avoir accès aux applications Linux sur les Chromebooks.
Mais clairement, moi, il y avait un manque, ce que je disais tout au début, moi, sur Chromebook, tout me plaît, hein. Clairement, j'ai pas beaucoup de choses à dire, surtout dans leur montée en gamme. On a des produits de plus en plus jolis, mieux finis, accès à des applications Android, tout ça. Par contre, il y avait des choses qui me manquaient. Ben, Thunderbird, un client mail, moi, perso, ça me manquait beaucoup. J'étais toujours obligé de passer par la version web, ce qui n'était pas forcément très, très sympa pour moi parce que j'avais pas d'alerte, toutes choses comme ça. Ben, moi, la première chose que j'ai fait, c'est installer Thunderbird. J'ai aussi installé autre chose qui s'appelle Audacity. Ceux qui font du podcast doivent le connaître, j'imagine. Enfin, je sais pas. En fait, tous ceux qui font un peu de montage audio doivent connaître ce truc-là. C'est la deuxième chose que j'ai installée, moi. Je vais pas vous dire tout ce que j'ai installé parce que l'idée, c'est que vous puissiez nous dire ce que vous auriez aimé voir arriver sur les Chromebooks via les applications Linux. Échangez avec nous sur Twitter, sur le CKB Show. Vous nous retrouverez, donc, comme je disais tout à l'heure, sur Telegram. Échangez avec nous aussi. Nous dire quelles applications, quels logiciels vous aimeriez avoir. Et à la rigueur, moi, je pourrais les tester. Peut-être que Thomas aussi, si ça l'intéresse.
Ouais,
si ça fonctionne bien. Après, on n'est pas des pros de toutes les applications qui existent, hein. On n'est pas spécial, enfin, mais on pourra s'amuser un petit peu, voilà, sur Audacity. J'ai commencé à faire du montage audio. Je suis nul là-dedans, mais j'ai commencé. C'est plutôt amusant et c'est plutôt facile à faire. Et c'est super bien intégré. C'est comme je disais tout au début, on a l'impression que c'est natif au produit, quoi. Ça a toujours été là. C'est tellement simple que ça a toujours été là.
Ouais. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Alors, c'est un peu compliqué à installer encore, on va dire, ou c'est pas hyper évident à installer. Faut ouvrir le terminal et copier, enfin j'allais dire taper, mais c'est même pas obligé de taper. Faut copier-coller une ligne de commande ou deux, et puis des fois peut-être faire récupérer les packages qui vont bien, donc les utilisateurs de Linux voient bien de quoi on parle. Mais c'est en gros, c'est les gens qui utilisent Linux, seront pas perdus finalement, puisque c'est quand même la façon d'installer des applications assez commune à Linux. Mais après, c'est vrai que les gens qui viennent de Windows ou de Mac, faut se farcir un petit peu de la ligne de commande pour le moment. Mais c'est clairement prometteur, quoi.
Pour ceux qui connaissent pas l'univers Linux encore, j'ai fait un article qui va paraître milieu de semaine prochaine, je crois, pour installer vos premières applications Linux. Alors, les deux, trois lignes de commande importantes, pourquoi, à quoi elles servent, pourquoi on tape ce code-là et pas un autre. Et c'est très rapide, il est pas très long l'article. Il y a quelques lignes de commande, je crois que j'en ai mis trois en gros, je les ai juste expliquées. Et après, ben, essayez, vous verrez, c'est presque l'adopter. C'est très simple, hein, une fois qu'on a compris le fonctionnement. Enfin, et puis il n'y a pas besoin de comprendre grand chose, hein, c'est trois mots. Hein. C'est assez facile à utiliser. Et ben, j'ai fait dans le tuto, je vous ai montré comment j'installe Thunderbird, justement. Je suis allé un peu plus loin, enfin un peu plus loin, je sais pas si on peut appeler ça un peu plus loin, sur Linux, il existe donc des interfaces, des stores, des grands magasins d'applications, de logiciels également sur Linux. Donc j'ai commencé à essayer d'en installer un pour voir si c'était plus simple. À la rigueur, on s'embête à taper la ligne de commande pour installer celui-ci, puis après on clique sur le logiciel qu'on veut, puis il s'installe tout seul. Tu vois de ce dont je veux parler, Thomas,
Comment
tu vois ça. Donc j'en ai installé un qui s'appelle GNOME Software, qui il marche super bien, hein, super bien. On voit tous les logiciels qui sont disponibles, on voit leur interface, les images, il y a une explication sur tout, il marche super bien, sauf le bouton installé. Mais... pour l'instant tu peux pas installer, mais Linux est en phase bêta sur Chrome OS, donc le temps que ça se mette en place, j'imagine que ça va même venir. Mais dès que c'est disponible, je ferai un tuto pour expliquer comment installer un store dédié au logiciel Linux pour que ça soit le plus simple possible à l'utilisation quotidienne. Et j'imagine même que Google va essayer de faire un truc comme ça.
Ouais.
Ça rendra encore plus simple pour eux, et ça donnera encore plus de poids à Chrome OS.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut s'attendre, à mon avis, à voir Google avoir son propre store Linux à un moment donné, ou en tout cas avoir des passerelles ou la liste des stores Linux supportés ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est à mon avis la direction qui va être prise. Mais on verra, quoi.
Dites-nous dans les notes de l'émission, sur Telegram, sur Twitter, quels sont les logiciels que vous voulez qu'on teste, ceux que vous aimeriez absolument avoir et qui sont aujourd'hui rédhibitoires pour l'achat d'un Chromebook et qui ne le seront plus une fois qu'on aura testé pour vous. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ce podcast, parce que je crois qu'on a terminé, Thomas, ça y est, enfin.
Ouais, on arrive à la fin, et tu vois, il est minuit 10, donc j'avoue, j'ai essayé de me retenir pour pas bâiller, mais je commence vraiment à être super fatigué.
Ben ça tombe bien, parce que voilà, c'est les derniers mots de l'émission. On attend vos commentaires. Il faut que je vous dise un truc, ouais, un truc hyper important. J'aime pas Apple. Bon, ok, ça y est, tout le monde le sait. Alors, c'est pas que j'aime pas, mais on a une dent contre Apple. Si vous aimez le podcast, il y a une chose hyper importante à faire. Alors, soit vous êtes devenu tipeur, vous participez au financement collaboratif du podcast. Je mettrai les liens dans l'émission. Ou alors, vous pouvez parler de nous sur Internet. Vous pouvez partager les épisodes via Twitter, Facebook, Google+, pourquoi pas. Mais aussi, vous pouvez nous noter. Et oui, parce que vous pouvez nous mettre des petits points, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, cinq étoiles, pour dire ce que vous pensez du CKB Show. Et ça, vous pouvez le faire sur iTunes. Non, iTunes, ouais, c'est ça comme ça que ça s'appelle ?
Ouais, iTunes.
Donc vous pouvez dire ce que vous pensez, mettre 5 étoiles et nous laisser un petit commentaire. Ça serait pour nous quelque chose d'assez formateur de savoir ce que vous en pensez. Et puis si vous mettez des étoiles, ben on remonte visiblement dans la liste des podcasts à ne pas manquer. Et pour l'instant, ben on ne sait pas où on est parce qu'on a très très peu de commentaires. Je crois qu'on en a 3, mais on a 6, on n'a que des bonnes étoiles. Donc continuez. Nous on aime les étoiles, on a la tête dans les étoiles. Donc plus il y en a, mieux c'est. Et si vous voulez continuer à rêver avec nous, ben, il va falloir faire ça. Mettez des étoiles, partagez et mettez des étoiles. Ça va, j'en ai envie de parler d'iTunes ?
Parfait, parfait.
Ouais, cool. Bon, bah, écoute, moi, je vais vous laisser. Je vais te laisser surtout aller dormir, Thomas. J'ai encore plein de choses à faire parce que moi, c'est le matin, puis il faut bien que j'aille travailler aussi. Et je te remercie. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'attends vos retours. Les prochains épisodes, à vous de les créer, finalement. Dites-nous ce que vous voulez qu'on aborde. Quels sont les sujets que vous aimeriez entendre. Dites-nous ce que vous avez pensé. On a essayé de faire 2-3 modifications sur le son également. J'espère que cette fois, il sera aussi bon que ce qu'on l'espère. Et puis, bah, on a fait un peu plus d'une heure, mais c'est normal. C'est comme d'habitude. Et en même temps, on fait ce qu'on veut, c'est nous qui parlons. Je vous remercie, je te souhaite une bonne nuit, Thomas, et je vous dis à très très bientôt. Ciao à tous.
Allez, à la prochaine. Ciao.